Voici la ville qui à tous inspire la stupeur. Qui ne la loue est indigne de sa langue. Qui ne la contemple est indigne de la lumière. Qui ne l'admire est indigne de l'esprit. Qui ne l'a vue ne croit point ce qu'on lui en dit, et qui la voit croit à peine ce qu'il voit. Qui la voit une fois s'en énamoure pour la vie, et ne la quitte jamais plus. Ou s'il la quitte, c'est pour bientôt la retrouver. Et s'il ne la retrouve, il se désole de ne point la revoir. De ce désir de retourner qui pèse sur tous ceux qui la quittèrent, elle prit le nom de Vénétia, comme pour dire à ceux qui la quittent encore, dans une douce prière, « Vénétiam, reviens encore ». Mais pourquoi y retourner? Pourquoi ce désir? Pourquoi cet amour? Peut-être n'aime-t-on Venise que parce qu'on aime ceux qui l'aiment, parce qu'on aime lire ce qu'ils en écrivent et qui donnent envie d'écrire à notre tour, parce qu'ils nous ont donné envie de l'aimer, d'être amoureux, et d'être amoureux là-bas ou là-haut, dirait Casanova. Le désir de Venise serait désir de l'amour, dans ces deux caractéristiques introuvables chez un homme ou chez une femme, et que seule une ville peut offrir. Accessible et inépuisable. Aimer Venise pour ne pas être déçu, pour se donner la joie d'aimer malgré le changement, malgré l'histoire, les déceptions, malgré les autres aussi, qui la peuplent, la visitent, nous transforment en amants jaloux. Venise ne nous appartient pas, mais elle est toujours là. Elle nous offre sans compter, donne sans attendre en retour. Elle est la parfaite concubine des amoureux de l'amour. Demain mardi, Philippe Solers, auteur d'un dictionnaire amoureux de Venise, viendra nous parler de cet amour. Mercredi, Jean-Yves Tadier nous décrira la Venise rêvée de Proust. Et jeudi, Suzanne Liandraguige et Eduardo Costadura franchiront le pas de l'amour vers la mort, à partir de Thomas Mann et de Visconti. Mais c'est aujourd'hui, c'est Catherine Douzou qui vient vous parler du premier de ces quatre amoureux de Venise que nous vous donnons à entendre toute cette semaine, l'écrivain français Paul Morand, pour qui Venise s'écrit au pluriel et traverse le XXe siècle comme une ville nénuphar.
Venise, donc, c'est avant tout pour vous la sensation d'être vous-même quand vous y êtes. Pourquoi exactement et quel est le charme, le mystère ou le secret de Venise?
C'est inexplicable d'abord, et puis alors deuxièmement, c'est le bien-être qu'on y trouve à travers les siècles, qui est le même, qui est fait de tout, qui est fait des souvenirs, qui est fait des reflets, qui est fait du côté intact de la chose, son côté périssable et dangereux, et cette espèce de vie précaire, de libellule et d'éphémère sur l'eau.
Mais Paul Morand, est-ce que vous ne croyez pas que la sensation que l'on éprouve à Venise, c'est également constamment la sensation d'un monde qui va mourir et que cela, en quelque sorte, procure un plaisir plus grand aussi en même temps qu'une certaine morbidesse presque de l'âme, non?
Oui, mais enfin, l'époque morbidesse qui commence à quoi? À Chateaubriand et qui finit à Barès. Et là, elle est juxtaposée en même temps avec la vie, ce que j'essaie dire à la fin, la vie qui reprend dessus, la jeunesse, les hors-bords, la joie de vivre, le lido. Alors tout ça, c'est curieux, c'est beaucoup plus frappant à cause des contrastes que, par exemple, la Venise de ma jeunesse.
Est une lettre postée anonymement. La mienne porte trois cachets. Paris, Londres, Venise. Le sort m'y fixa, souvent à mon insu, mais certes pas à la légère. Venise résume dans son espace contraint ma durée sur terre, située elle aussi au milieu du vide, entre les eaux fétales et celles du Styx. Je me sens décharné de toute la planète, sauf de Venise, sauf de Saint-Marc, mosquée dont le pavement déclive et boursouflé ressemble à des tapis de prière juxtaposés. Saint-Marc, je l'ai toujours connu, grâce à une aquarelle pendue au mur de ma chambre d'enfant. Un grand lavis peint par mon père vers 1880, bistre, sépia, encre de Chine, d'un romantisme tardif, où le rouge des lampes d'autel troue les voûtes d'ombre dorée, où le couchant vient éclairer une chair enturbanée. « C'est après la pluie qu'il faut voir Venise, » répétait Whistler. « C'est après la vie que je reviens m'y contempler. »
Bonjour Catherine Douzou.
Bonjour Adèle Vanrette.
C'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine sur Venise. Pourquoi Venise avons-nous choisi de l'intituler? En effet, c'est une question qu'on se posera chaque jour de cette semaine. Vous êtes professeur à l'Université de Tours et on vous doit notamment un Paul Morand nouvelliste qu'on trouve aux éditions Honoré Champion. On a commencé cette émission avec un extrait d'un entretien que Paul Morand accordait à Roger Vrigny le 15 juillet 71. Puis nous avons entendu un extrait de ce texte de Paul Morand qui s'appelle Venise au pluriel. C'était les premières lignes de ce texte-là que Daniel Mesguich nous a lu. Il est intéressant de confronter les deux puisque d'un côté on entend Paul Morand qui dit que son goût, son amour pour Venise est inexplicable et de l'autre on entend la beauté de ce qu'il écrit et de ce que Venise lui fait écrire. Et donc on a comme ici un contraste entre une forme de désinvolture finalement qu'il a en parlé, hein, ben, je ne sais pas pourquoi Venise, c'était inexplicable, c'est parce que Venise est très belle, et de l'autre, la délicatesse, la beauté des lignes qui sont celles que compose ce texte Venise, Catherine Douzou.
Oui. Venise est un texte qui a un statut tout à fait particulier dans l'œuvre de Morand. Et c'est finalement son premier texte autobiographique, alors qu'il a 82 ans. Et c'est la première fois qu'il parle à peu près directement de lui. Or, jusqu'à présent, il l'a fait uniquement à travers des fictions, des formes de narrateurs autofictifs, comme dans le « Ouvert la nuit, fermé la nuit ». Mais il y a véritablement un tournant, et c'est un texte qui marque également un tournant dans son existence. Précédemment, il a écrit un petit roman qui s'appelle « Tais-toi », et qui est justement la tentative d'un récit autobiographique, biographique, qu'un personnage qui a hérité d'un oncle qu'il n'a pas connu veut écrire à son propos. Et ce petit livre « Tais-toi » semble montrer qu'il est impossible de faire la biographie de quelqu'un d'autre et de connaître quelqu'un, malgré l'enquête que fait ce neveu qui aboutit à un échec, ou à un échec relatif. Et il semblerait que Morand, justement, écrive Venise, juste après ce texte-là, avec l'idée que désormais, il faudrait qu'il parle de lui, parce qu'il sent qu'il va bientôt disparaître.
Alors, il écrit ce texte, en effet, en 71, il meurt en 76,
76, voilà.
Donc, juste rappelons-le, ou apprenons-le, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Morand, il est né en 1888.
Voilà.
Il a une carrière à la fois d'écrivain, de poète, de nouvelliste et d'ambassadeur.
Oui.
Il est donc sur ces deux tableaux, d'un côté plutôt artistique, littéraire, et de l'autre plus politique.
Oui.
Et donc, au moment où il écrit Venise, c'est à la fin de sa vie, il a déjà énormément écrit.
Oui.
Et ce qui explique peut-être ce besoin ou cette nécessité de faire un texte qui, lui, soit plus biographique.
Oui, tout à fait. Paul Morand est quelqu'un qui me semble être tout à fait pudique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va raconter sa vie et qui parle volontiers de lui avec des involtures et qui n'aime pas à parler de lui directement. Et qui n'aime pas à parler du tout, même si finalement il parle très bien, mais il préfère écrire. Et si vous voulez, Venise, c'est le premier texte où il va donner des éléments, se confier. Un peu. Mais il le fait par le truchement d'une ville.
Alors justement, venons-en au cœur du sujet. Pourquoi Venise? Pourquoi est-ce que c'est la ville de Venise en tant que telle parmi toutes les autres? Puisque Paul Morand a écrit un texte sur New York, sur Londres, il a énormément voyagé. Ce n'est pas la première fois qu'il écrit un texte sur une ville. Pourquoi est-ce Venise en particulier qu'il choisit pour parler de lui? Comme il le dit à la fin du texte qu'on a entendu, c'est après la vie que je reviens m'y contempler.
Voilà. Morand est un écrivain diplomate. Même s'il a été, à mon avis, beaucoup plus écrivain que diplomate. Et il a sans doute été bien meilleur écrivain que diplomate. Mais Venise, comment dire, Venise, c'est une cité miroir. Hein. C'est une cité miroir. Pour faire le lien avec le livre qui va être présenté à la fin de l'émission, comment écrire des livres.
Oui, François Nudelman recevra voilà. Pierre Bayard, oui, pour vous parler de comment parler des lieux où on n'a pas
été. Des lieux où on n'a pas été. Venise, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire comment ne pas parler des lieux où on est tout le temps allé. Et Venise est en fait, même s'il cite Paris, Londres, Venise au début de justement de ce livre Venise, Venise est la ville qu'il a préférée et qu'il a aimée entre toutes. Il le dit dans son journal, dans les derniers textes de son journal inutile. Et il est allé à Venise très très tôt et il est allé à Venise très régulièrement avec des interruptions notamment pendant la période de la guerre. Mais il y retournait, on le voit dans le journal, pour écrire notamment Venise. Il y retournait peu de temps avant sa mort. Et sans aucun doute, c'est la ville qui a rythmé son existence et vers laquelle il est toujours revenu, comme il est toujours revenu à sa femme, d'une certaine façon.
Et alors, ce qui pose problème, justement, oui, d'ailleurs, cette comparaison entre Venise et la femme sera reprise, je pense, plusieurs fois cette semaine, puisqu'en effet, c'est souvent quand on parle, les amoureux de Venise identifient souvent Venise à une femme. Mais le paradoxe dans ce que vous dites et dans la démarche de Paul Morand vient du fait que, pour parler de lui, donc à savoir au moment où il décide enfin de d'écrire un texte qui soit le plus intime possible, il choisit une ville qui, elle, est au contraire, qui a été décrite des dizaines et des dizaines de fois par des écrivains depuis des siècles, une ville, disons, presque un poncif éculé. Que reste-t-il de Venise dans l'expérience que l'on peut en faire pour justement faire un miroir dans lequel on peut s'y contempler?
Oui. Alors, première chose, c'est que dans son existence, Venise a eu une réelle importance, puisqu'il part à Venise pour la première fois avec ses parents. Il est jeune garçon, quoi. C'est en 1904, son premier séjour. Et il va y retourner jusqu'en 1909 régulièrement. Ses parents louent un appartement Traghetto San Mauricio, je crois. Et donc, il y va parce que régulièrement, ses parents passent par le lac de Côme, à Tremezzo, et ils passent par Milan. Et ensuite, ils vont passer l'automne à Venise, avec toute une série de personnes qu'ils retrouvent, et tout un cénacle littéraire, artistique, autour d'Henri de Régnier, que Morand appelle justement les longues moustaches. Donc lui, il est très jeune homme, et à partir de là, il va y aller très régulièrement. C'est au début de son existence, effectivement, tout lui est donné. Il reçoit Venise en héritage. Et ça, la question de l'héritage se pose constamment, puisqu'on voit le passage du temps dans Venise, on voit l'arrivée des hippies, l'arrivée des touristes, du tourisme de masse, etc. Que reste-t-il de Venise ? Et l'autre question qui me semble intéressante à aborder par rapport à ce que vous dites, c'est que finalement, dans ce livre Venise, il décrit peu Venise. Venise est l'absente de tout bouquet. C'est vraiment ici une œuvre qui est à contre-emploi d'une certaine façon. Les écrivains vont à Venise pour la décrire, les peintres pour la peindre. Venise, au pluriel, le Venise de Morand, c'est pour parler de lui, mais pas vraiment, à travers les miroitements justement de la lagune qui est aussi un peu l'anagramme de langue.
Justement, alors oui. Il ne décrit pas Venise, il parle de lui, mais vous venez de le dire, sans en parler vraiment. C'est le propre de ce texte que d'être assez indéfinissable, puisqu'il n'est ni une description, ni un souvenir, ni une fiction. C'est écrit dans un style très, très fragmentaire, hein. Il y a recours aux aphorismes régulièrement, et il parle autant ou aussi peu de lui que de l'histoire, avec un grand H, hein, puisqu'il décrit, vous avez dit, l'évolution de Venise, de la vieille Venise du début du siècle jusqu'à l'arrivée des hippies, mais il parle également de l'histoire elle-même, de ses... ce personnage aux chemises brunes qui défile dans les rues, ce qui est une façon de montrer l'avènement du fascisme de manière très expressionniste. Hein. Et il a ce ton-là qui entremêle à la fois réflexion personnelle, réflexion sur l'histoire, qui fait de ce texte, peut-être comme Venise elle-même, hein, justement, qui est cette ville à la fois aquatique et urbaine, citadine et féerique, ce texte est indéfinissable en tant que tel et prend plusieurs directions, peut-être comme les rues elles-mêmes à Venise.
Tout à fait. C'est un texte que je trouve personnellement tout à fait fascinant, je ne suis pas la seule, parce qu'il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien, en tout cas, déjà, à rien de ce qu'a écrit Morand dans le fil de sa littérature de voyage, et notamment ses portraits de ville, New York, Londres, Bucarest, sont des portraits qui sont extrêmement construits. Et où il nous promène en tant que guide touristique dans les villes, en nous expliquant la géographie, l'histoire, voire même l'économie. Ici, on n'a rien de tout ça. Et il s'agit véritablement d'une projection personnelle, même si le livre est construit au fil de sa vie. C'est-à-dire qu'on commence par l'enfance, ensuite, il y a 4 chapitres. On commence par l'enfance, le palais des anciens, ensuite, nous sommes dans le pavillon de la quarantaine, 2e chapitre, ensuite, Morte in Maschera, et ensuite...
Il est plus facile de commencer que de finir.
Que de finir, voilà. Et on voit également que c'est un livre testamentaire.
C'est tout à fait par hasard, puisque on a un père et une mère par hasard, n'est-ce pas forcément ? Tout est hasard. Le professeur Monod le dit, y compris un homme et une femme qui se rencontrent et qui vous donneront naissance, c'est un hasard. Mon père aimait beaucoup Venise, c'était un artiste, il y peignait, il y avait un atelier, et alors j'ai été amené à y aller très jeune et à aimer la ville dès ma 18e année.
Venise jalonne mes jours comme les espars à tête goudronnée balisent sa lagune. Ce n'est parmi d'autres qu'un point de perspective. Venise, ce n'est pas toute ma vie, mais quelques morceaux de ma vie, sans lien entre eux. Les rides de l'eau s'effacent, les miennes, pas. Je reste insensible au ridicule d'écrire sur Venise, à l'heure où même la primauté de Londres et de Paris n'est plus qu'un souvenir, où les centres nerveux du monde sont des lieux sauvages, Jakarta, Saïgon, Katanga, Kémoi, où l'Europe ne se fait plus entendre, où seule compte l'Asie. Venise l'avait compris, installée à ses portes, pénétrant jusqu'en Chine. C'est à Marco Polo que Saint-Marc devrait être dévoué, et non le contraire.
Il ne reste que la pluie sur Venise ensoleillée par nos baisers. Il ne reste sur Venise qu'un ciel gris depuis que tu m'as quitté. Il ne reste.
Vous écoutez France Culture, il est 10h19. Vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons de Venise toute cette semaine. Et aujourd'hui, plus précisément, de Paul Morand, l'auteur d'un Venise au pluriel, paru aux éditions Gallimard, avec Catherine Douzou.
Il ne reste pas les grises. Que la pluie qui efface tout de ces palais au plafond bleu, de ces palais mystérieux des gondoliers.
Catherine Douzou, vous l'avez dit tout à l'heure et on a entendu Paul Morand, à travers la voix de Daniel Mesguich, le dire, ce texte, Venise, jalonne ses jours comme les espars à tête goudronnée balisent sa lagune. C'est-à-dire que donc, c'est un texte qui part de son enfance, puis vient vers l'âge adulte, et enfin, on l'a vu à la veille de sa mort. Et il fait de Venise, en effet, si on repart du début, hein, il dit à Venise, ma minime personne a pris sa première leçon de planète au sortir de classe où elle n'avait rien appris. Pour lui, c'est à Venise qu'il a véritablement commencé à découvrir la vie que l'école et les cours qu'il a suivis n'ont pas su lui faire découvrir. Il insiste beaucoup là-dessus et toutes les premières pages de ce texte sur Venise sont extrêmement belles puisqu'on entend parler un homme qui a eu une enfance heureuse, qui le dit comme tel. Il dit, contrairement à Proust ou à d'autres écrivains, l'enfance n'a pas été pour moi le lieu d'une découverte absolue, d'un premier contact avec le monde. J'étais un enfant gâté, à qui le monde était offert. J'étais sur ma bulle, j'étais heureux et du coup j'étais coupé du monde. Et Venise joue un rôle très important là dans cette continuité et cette rupture du coup entre l'enfance heureuse qu'il assume et ce moment de libération où enfin il pousse un soupir et s'ouvre au monde, Catherine Douzeau.
Oui, le statut de Venise, quand même, est celui d'un rêve. D'un rêve, et, d'un rêve qui était improbable, tout à fait à réaliser. Et Morand a vécu son enfance, justement, avec des gens qui avaient comme mot d'ordre « vivre à Villy ». Et donc, il a vécu dans un monde d'artistes. Son père est lié au symbolisme, il écrit du théâtre... Il vit dans un monde d'artistes, il connaît Sarah Bernhardt, son père l'emmène dans le salon de Sarah Bernhardt, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui, effectivement, il l'a toujours reconnu, a été extrêmement gâté, mais il a vécu dans une cité qui était hors du temps, d'une certaine façon. Hors du temps. On ne parlait jamais d'argent. On se réunissait le soir avec les Français de Venise pour déguster des boissons dans les grands cafés de la place Saint-Marc en écoutant des valses. Et bon, par ailleurs, Morand a toujours été très critique vis-à-vis de l'école et il n'a pas été un si bon élève que ça. Il a été recalé au bac de philo. Bon,
il est très sévère envers le système éducatif dont il a fait les frais. Il dit, mais on m'a fait lire Bérénice. Bérénice à 13 ans. Comment peut-on aimer Bérénice à 13 ans alors qu'on ne connaît rien du monde?
Tout à fait. Et il a toujours revendiqué l'apprentissage de l'écriture dans le monde et non pas à l'école. Écrire bien, c'est le contraire de bien écrire. Il le dit dans Venise. Parce que Venise est aussi, indirectement, aussi un traité poétique pour lui. C'est-à-dire que Venise, c'est une ville, mais c'est aussi un idéal stylistique, un idéal artistique. Et c'est une ville qui est une ville musée, mais qui en même temps est en prise avec un certain monde, avec la vie de l'esprit, la vie artistique, mais aussi avec la vie toute simple. Morand raconte qu'il va faire la sieste sur certaines places à Venise. Enfin, il parle de la vie qu'il a eue à Venise, c'est-à-dire que c'est un rêve artistique dans lequel il vivrait. Et c'est le seul endroit au monde où il a le sentiment de vivre cela. Même si Venise, on en reparlera sans doute plus tard, mais Venise n'est pas une ville qui échappe justement complètement à l'histoire. Et au risque de la décrépitude. Et de mais c'est quand même dans le monde une ville... quand même, dont il dit Venise est venue s'échouer où on ne pouvait pas le faire. Ce fut son génie. C'est une ville impossible.
Et pourquoi dites-vous que c'est un rêve pour lui? Puisque justement, il y a vécu et ce qu'il écrit sur Venise n'est pas un rêve, est vraiment une façon d'écrire sur son expérience, ses souvenirs et même son présent à Venise. Et il me semble que sa démarche d'écrivain vis-à-vis de Venise est peut-être à saisir dans cette phrase-là lorsqu'il dit « Qui écrira le roman de 1917 ? C'est l'esprit de géométrie qui, chez les historiens, simplifie et fausse tout. La vérité ne se trouve que dans les œuvres d'imagination. » Peut-être plus qu'un rêve, Venise, il l'imagine car il sait que c'est par l'imagination qu'il va ressaisir le sens même de, peut-être de l'histoire, mais là c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas de sa propre vie, de son histoire. Catherine Douzeau.
Oui, tout à fait. Il a toujours défendu la fiction et l'imagination comme moyen de connaissance. Ça c'est contre justement la dimension scientifique de la vérité, enfin d'une approche scientifique de la vérité. Venise est un moyen pour lui de se connaître, quoi. Il le dit là encore, à Venise je pense ma vie mieux qu'ailleurs.
C'est donc plus qu'un prisme, c'est un prisme à travers lequel il peut se ressaisir sa vie, ressaisir sa démarche d'écrivain, mais également penser le monde en tant que tel. On l'a évoqué rapidement, on en a dit deux mots, mais à travers Venise, en ancrant sa réflexion vraiment dans la ville de Venise, Il s'en sert comme une perspective sur le monde qui change, dont il assiste, hein, il est spectateur de ce changement-là, qu'il déplore bien souvent. Il y a de très belles pages où il décrit cette évolution du tourisme, notamment à Venise, et le fait qu'il y ait de plus en plus de voitures, ce qu'il déplore également. Si bien qu'on a à la fois cette Venise rêvée, en tout cas imaginée dont vous parliez, cette Venise célébrée, mais en même temps ce contraste entre d'un côté, et d'ailleurs contraste qui est propre à Venise, on l'entendra toute cette semaine, entre d'un côté une Venise musée, figée ou en tout cas atemporelle, qui n'est figée uniquement dans la mesure où elle n'évolue pas parce qu'elle est atemporelle, la Venise des artistes, mais également la Venise qui est aussi le reflet d'une histoire qui avance, qui évolue et qui est comme le réceptacle physique et sensible de cette avancée-là du XXe siècle, Catherine Dozou.
Tout à fait. Mais il le dit dans un autre texte que Venise avec au pluriel. Ce qui est intéressant à Venise, c'est qu'elle a été protégée des grandes marées. Des grandes marées, puisque l'Adriatique est un lieu un petit peu comme un cul-de-sac maritime. Hein, un point de départ, mais aussi un cul-de-sac. Et donc, Venise est à la fois protégée de l'histoire, mais en prise avec l'histoire. Puisque, comme vous l'avez rappelé, on voit très très bien que dans le passage où il évoque l'arrivée du fascisme et l'arrivée des chemises brunes à Venise, on sent très bien que c'est une ville qui est marquée, de même que il s'interroge avec les Vénitiens, faut-il éclairer Venise au néon? Donc faut-il la faire entrer dans la modernité? Faut-il toucher à ce rêve de pierre, enfin, et de surpilotis? Mais en réalité, il y a cette dialectique constante. Mais l'idée de Morand, je crois, c'est que s'il n'en reste qu'une, ce sera celle-là qui échappera à tout et qui va porter ce qui, de toute façon, est appelé à disparaître. C'est-à-dire une civilisation. Une architecture, une vision artistique du monde, un rêve d'art. Et il aurait aimé vivre à Venise. Il l'a dit plusieurs fois. Et il aurait aimé vivre à Venise, mais il lui a fallu faire carrière. Et il a été poussé en cela. D'ailleurs, il leur met un petit coup de griffe par sa femme et sa mère.
C'est une ville dont il est extrêmement difficile de sortir.
André-Pierre de Mondiargue.
Encore plus peut-être que de sortir de Paris. Vous n'avez pas idée des efforts qu'il faut faire pour arriver au garage, pour prendre sa voiture. Et quand on a vécu longtemps à Venise, je dirais qu'on est en péril de mort quand on revient sur la terre ferme, car on a totalement oublié que les rues ne sont pas pavées d'eau et qu'il y passe autre chose que des bateaux gentils et inoffensifs.
Ce soir d'octobre, c'était encore l'été. La surface de l'eau n'offrait qu'une vitre brisée, toute tourmentée de remorqueurs hurlants, de transbordeurs éparpillant des nuées de mouettes posées sur les bouées, de bateaux pilotes tirant par le nez des pétroliers de haute mer, de bacs du Lido vomissant leurs autos par les deux bouts, de hors-bord, nickel, chrome, acajou, claquant une surface durcie par la vitesse. D'élégants tritons, torse nus, les conduisaient debout. Conduire assis est à Venise une honte. Tout barattait l'eau saumâtre, la tirant à soi ainsi qu'un drap. Cette eau disparaissait sous les coques, comme dans ces récates de Guardi, où l'entassement des gondoles transforme le grand canal en un pont de bateau.
Chantez la 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 la
lorsque Paul Morand écrit ses lignes sur cette Venise, qui semble lui échapper puisqu'elle change de visage, elle devient métallique, elle troque les gondoles pour les voitures, l'eau devient sale, verdâtre, il y a de nombreuses descriptions hein, de la Brenta qui devient polluée, sale, d'un bleu translucide passe à un vert opaque et qui ne laisse plus rien voir à part des bouteilles de plastique qui flottent. On a là, alors peut-être on retrouve ce que Paul Morand dit lui sur la vieillesse, sur cette douleur qu'il y a à vieillir, à sentir que les choses passent, ne nous appartiennent plus, et cette diminution de vie qui correspond à la vieillesse, mais également qui du coup nous rend nostalgique par rapport à ce que nous avons pu vivre. Mais on a aussi peut-être un contraste avec les descriptions qu'il donne par ailleurs des touristes qu'il voit à Venise et qu'il semble à la fois détester et adorer. Je pense à ce qu'il écrit sur les hippies, notamment il raconte comment il rencontre des hippies qui sont là, qui dorment par terre, qui sont crasseux, qui sentent mauvais, qu'il méprise et en même temps il essaye de se lier d'amitié avec eux. Il leur donne sa gourde de grappa, il la partage. Donc il y a ce moment où il donne à cette hippie qui est là, avec son regard triste comme une cloche, dit-il. Et il lui dit, voilà, il lui parle de Venise et elle lui répond « I shit on Venice ». Et donc, il dit, laissez ça aux pigeons, mademoiselle, en reprenant sa gourde vide. Donc, on a là des pages qui sont assez drôles. Et il y a ce contraste-là, parce que d'un côté, on pourrait en faire quelqu'un d'assez réactionnaire, qui est contre les voitures, qui veut préserver une Venise hors de temps. Et en même temps, il y a cette tendresse envers ce monde qui évolue, qui passe, et ce changement qui n'est peut-être pas que négatif.
Oui, Morand fait le constat du temps qui passe. Il fait le constat de ces nouvelles générations qui viennent visiter Venise, mais il constate également que ces générations viennent dans les années 60, par exemple, plus pour se baigner au Lido et que pour admirer le Tiepolo ou Véronèse, enfin, ou le Tintoret, enfin, c'est une autre forme de tourisme. Et alors, les hippies, oui, c'est un passage très intéressant parce que, en même temps, ce sont des gens qu'il admire et qu'il envie. Il aime ses amoureux de la grande route et il se sent plus proche d'eux que de la famille française attablée devant son gigot dominical. Parce que quand même, quelque part, c'est la liberté et c'est un homme qu'on peut considérer comme traditionnel, qui est traditionnel d'une certaine façon, qui revendique un héritage et qui déplore de voir cet héritage disparaître d'une certaine façon, ne plus se transmettre. Mais il y a quand même quelque chose qui se transmet, c'est l'esprit de liberté, l'esprit d'indépendance, la volonté de bouger, parce que Morand est quand même quelqu'un de très mobile, qui a essayé de rester mobile jusqu'à la fin de sa vie, qui est arrivé d'ailleurs. Mais cette rencontre avec les touristes, les hippies, enfin, est tout à fait étonnante. Il compare le costume qu'il avait, lui, au même âge, qu'il portait, les chemises empesées, etc., le chapeau. Et effectivement, ces touristes qui sont vautrés dans les venelles, qui lui boivent sa bouteille de grappa. D'ailleurs, c'est étonnant de penser que Morand se promène dans Venise avec sa petite fiasque de grappa et qu'il la partage comme ça avec des touristes. Ça montre quand même que c'est quelqu'un qui est resté extrêmement curieux, et curieux de la modernité, qui a recherché le contact avec la modernité, a recherché l'échange. Mais il ne peut plus dialoguer avec ces gens-là, puisqu'effectivement, « I shit on Venice ». Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le livre de Venise, qui est vraiment très 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 mélangé, puisqu'on a autant des anecdotes, des éléments historiques portant sur Venise, portant sur l'Europe, que des aphorismes, enfin à certains moments, qui sont des séries d'aphorismes qui sont restitués et qui sont parfois pris d'autres textes de Morand, mais il les réinjecte dans Venise parce que il y tient, enfin, en les retravaillant un petit peu, formellement. Mais il y a aussi cette continuité des hippies rencontrés qu'il retrouve à certains moments en Grèce. Et alors, il apprend que, justement, celle qui lui vide sa fiasque de grappa, en faisant le travail des pigeons, c'est quelqu'un qui est en fait d'une très bonne famille anglaise et qui a reçu une très bonne éducation. Et donc là, on voit une cassure. Et cette cassure, il la constate. Morin, ça n'est pas quelqu'un qui va, contrairement à ce que parfois on pense à l'image qu'on lui accroche, c'est quelqu'un qui observe avant de juger. Il y a des jugements, mais enfin il y a une sorte de détachement aussi par rapport à ce qui arrive. Et donc c'est hippie quand même, il se reconnaît.
Comment comprenez-vous ce S à la fin de Venise dans ce texte-là? Pourquoi Venise au pluriel? Est-ce une manière justement de laisser ouvert le champ des interprétations, de ne pas figer Venise dans une Venise, faire en sorte que chacun puisse s'y reconnaître?
C'est une ville un peu palimpseste, si vous voulez. C'est une ville peuplée de fantômes. Et d'ailleurs, il y a des fantômes partout. Il y a les amis qui l'a connu, les artistes qui l'a connu, les écrivains qui l'ont précédé, les artistes et les musiciens qui sont enterrés à Venise ou qui ont vécu. Donc il y a tout ce monde-là qui est porté dans Venise. Il y a des Venises, les Venises de son existence. Et on sait que Morin a beaucoup réfléchi au titre. Et il a eu beaucoup de mal à trouver un titre. C'est un titre absolument génial. Et parce que le S de Venise, outre le pluriel de toutes ces villes imaginaires, rêvées, qui se superposent et qui s'entrechoquent parfois, modernes, antiques, enfin anciennes, etc. C'est aussi le S du Grand Canal. Et puisque dans le livre, il observe que du haut du campanile de Saint-Marc, quand on regarde le Grand Canal, il a la forme d'un S.
À l'envers.
Oui, mais je crois qu'il y a une rêverie de la part de Morin sur ce S, parce que c'est un S un peu de serpent, hein, et pour Morin, si vous voulez, Venise, ça n'est pas du tout une ville. Bon, il y a de la mélancolie dans son ouvrage, évidemment, mais Venise, c'est l'antidote. Quand même, de la mélancolie. C'est l'affirmation qu'il faut faire le choix de la vie, qu'il faut faire le choix du bonheur, rechercher le plaisir jusqu'au bout. Et il y a cette espèce de S, qu'on peut comparer à un Ouroboros qui aurait une forme peu commune, hein, mais il parle du S du serpent. Et donc, c'est la ville où l'énergie, où son énergie, lui, chaque fois qu'il y est retourné, son énergie se recompose. Il a besoin de la mer et du soleil, dit-il, et il a besoin de l'art pour se ressourcer, comme on dit. Et donc, ce S de Venise, il y a quelque chose de ça. D'autant plus que c'est la moitié d'un 8. Or, il est né en 1888. Morin était très attentif à tout ça. Il élabore au fil de ses écrits un imaginaire, une mythologie personnelle dans lequel, justement, l'eau a beaucoup d'importance. Il se dit « je suis né sous le signe des poissons ». Poisson, ascendant poisson, donc c'est la ville d'Amphitrite, enfin c'est la ville poisson, Bucentaur.
Parfois je cherche à me faire saigner. En m'imaginant que Venise meurt avant moi, qu'elle s'engloutit, n'ayant finalement rien exprimé sur l'eau de sa figure. S'enfonçant, non pas dans les abîmes, mais de quelques pieds sous la surface, émergeraient ses cheminées coniques, ses miradors où les pêcheurs jetteraient leurs lignes, son campanile, refuge des derniers chats de Saint-Marc. Des vaporiti, penchés sous le poids des visiteurs, sonderaient la surface où se délait la fange du passé. Des touristes se montreraient du doigt lors de quelques mosaïques entre 5 ballons de water-polo flottant, les dômes de Saint-Marc. La saloute servirait de bouée au cargo. Au-dessus du grand canal, des bulles montraient, dégagées par les hommes grenouilles cherchant à tâtons les bijoux des Américaines dans les coffres d'un grand hôtel immergé. « Quelle prophétie a jamais détourné un peuple du péché ?» dit Jérémie. « Venise se noie. C'est peut-être ce qui pouvait lui arriver de plus beau. »
Thank you.
Je m'entends dire et répéter, tu nies le passé, tu refuses le présent, tu t'élances vers un avenir que tu ne verras pas. Je veux en avoir le cœur net. Surmontant mon peu de goût pour moi-même, j'ai donc pris Venise comme confidente. Elle répondra à ma place. À Venise, je pense ma vie, mieux qu'ailleurs. Tant pis si je montre le nez dans un coin du tableau, comme Véronèse dans la maison de Lévy. Les canaux de Venise sont noirs, comme l'encre. C'est l'encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de Barrès, de Proust. Y tremper sa plume est plus qu'un devoir de français, un devoir tout court. Catherine Douzou, c'est cela aussi le S de Venise, c'est à la fois ces descriptions de hippies qui donnent lieu à des situations très cocasses et ces lignes magnifiques, très émouvantes, où il décrit Venise en train de se noyer. Venise se noie, dit-il, et peut-être c'est ce qui pourrait lui arriver de plus beau, ce qui serait une manière de la préserver, peut-être hors de toute évolution temporelle. Et en même temps, lorsqu'il écrit cela, il s'inscrit dans toute une tradition d'auteurs qui ont écrit sur Venise, il le dit, hein, les canaux de Venise sont noirs comme l'encre. C'est l'encre de Jean-Jacques, de Chateaubriand, de Barrès, de Proust. Si bien que c'est comme un devoir d'écrire sur Venise. Comment est-ce que vous comprenez cela ?
Un devoir d'écrire sur Venise ? Oui, je crois qu'il s'inscrit quand même dans une tradition. Dans une tradition, et pour lui c'est important. Parce qu'il a tout à fait conscience d'être l'héritier d'une civilisation qui, selon lui, est appelée à décliner, enfin décline, qu'il voit décliner tout au long du XXe siècle, et qui va vers la catastrophe. Mais en même temps, dans le très beau texte que vous avez lu, où il imagine dans une sorte de caprice, une fantasmagorie, cette ville qui... C'est assez amusant, c'est assez
fantaisiste. C'est assez drôle, il compare les ballons de
Saint-Marc.
De Saint-Marc les dômes de Saint-Marc, ouais, à des ballons de water polo flottants.
Oui, et puis le dôme de la Salute qui serait une bouée où les paquebots pourraient s'amarrer. Enfin, c'est, vous voyez, il refuse le pathos.
Vrai, il y a toujours ce contraste. Ah, oui. Les moments qui sont très émouvants et très forts sont toujours tranchés ou dilués par une dose, finalement, quelques mots d'humour ou une distance.
Oui. Oui, il refuse la mélancolie, même si elle est là. Et même si on sent la catastrophe qui est la disparition annoncée de Venise et de toute chose. Mais en même temps, il reste l'écriture, il reste le regard qu'on peut avoir sur les choses, la distance qu'on a pour les penser, pour les représenter. Et oui, je crois que c'est vraiment ça, Venise. C'est la légèreté. C'est pas du tout la ville des poitrinaires, où on vient pour mourir, où on vient pour se délecter justement de l'aspect morbide, de la pourriture, des pilotis. Non, pas du tout. C'est plutôt la Venise du bonheur de vivre dans l'art. Dans l'art, mais aussi de choses simples. Une fiasque de grappas, une sieste sur une place publique, écouter les gondoliers qui annoncent en levant leurs gondoles comme des fleurets le nom des magnifiques palais. Parce que justement, à propos de cette disparition, il y a aussi la fameuse fête du palais Labia, qui a eu lieu en 1951 et qui, pour lui, est la dernière grande fête européenne qui est organisée par Charles Bestégui. Et Morand est arrivé plus tôt que tout le monde, avec quelques amis. Il s'est installé à tel point qu'il a indisposé Charles Bestégui, qui n'était même pas encore complètement habillé pour il n'avait pas encore revêtu son costume complètement, pour voir défiler tous les grands noms de l'Europe. Il y avait Winston Churchill et bien d'autres, arriver publiquement en gondole, entrer dans le palais. Mais pour lui, c'est la dernière grande fête européenne. Donc c'est, si vous voulez, le feu d'artifice, Venise.
Et lorsqu'il imagine qu'elle se noie, c'est peut-être une manière de la préserver, justement, pressentant la catastrophe historique.
Oui.
Il voudrait que Venise coule sous l'eau, afin que l'eau puisse la préserver comme du formol. Hein.
Devient une ville enchantée, un petit peu, hein, effectivement, comme Blanche-Neige, son couvercle de cristal. Oui, pourquoi pas, oui.
Là, j'irai gésir, après ce long accident que fut ma vie. Ma cendre, sous ce sol, une inscription en grec en témoignera. Je serai veillée par cette foi orthodoxe vers quoi Venise m'a conduit, une religion par bonheur immobile, qui parle encore le premier langage des évangiles. Merci beaucoup, Catherine Douzou. C'est donc avec Claudio Monteverdi, compositeur vénitien, que nous terminons cette émission vers les sphères célestes de Venise. Non pas là-bas, disait Casanova, mais là-haut. De vous, on peut lire deux ouvrages notamment, Paul Morand, singulier et pluriel, qu'on trouve aux éditions du Conseil scientifique de l'Université Charles de Gaulle, Lille 3. Également, Paul Morand, c'est un ouvrage collectif, je viens de le dire, vous avez réuni ces textes-là. Également, Paul Morand, nouvelliste, paru aux éditions Honoré Champion. Et chers auditeurs de Paul Morand, lisez notamment Venise au pluriel, donc. On trouve ça chez Gallimard, dans la collection L'Imaginaire. Thank you.